voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotin.
Bonjour et bienvenue dans Tous les cinémas du monde, une émission spéciale cette semaine consacrée à un film très spécial, un film qui parle d'Afrique, de journalisme sur des zones de guerre. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Voilà, Camille de Boris Lochine, je le disais, un film d'action et de conviction qui a obtenu le Grand Prix du public au Festival de Locarno en août dernier. C'est le portrait magnifique d'une jeune femme, Camille Lepage, cette photo journaliste assassinée en Centrafrique en 2014. Elle avait 26 ans. Bonjour Boris Lochkine.
Bonjour Elisabeth.
Vous allez nous faire découvrir en exclusivité pour RFI les 10 premières minutes de votre film, séquence par séquence. Voilà, nous allons parler lumière, image, montage, choix de mise en scène. Mais avant, est-ce qu'on peut revenir sur les circonstances de la mort de Camille Lepage et sur les raisons surtout qui vous ont poussé à faire ce film ?
Alors les circonstances de sa mort, elles sont. Alors l'affaire n'est toujours pas jugée, donc on peut pas en dire grand-chose. Mais enfin, il n'y a pas de grand mystère sur la mort de Camille. Elle accompagnait un groupe d'anti-balaka dans l'ouest du pays, pas très loin de la frontière camerounaise. Ils ont été pris dans une embuscade tendue par un groupe adverse. Ex-Séléka, Peul.
Donc anti-balaka, on rappelle, hein, c'était les groupes d'autodéfense des communautés chrétiennes.
Oui, c'est ça.
Et les Séléka.
Et des Séléka, une milice à dominante musulmane, même si c'est beaucoup plus mêlé et complexe que ça.
Donc elle a été prise...
Voilà, prise dans cette embuscade dont elle n'était pas la cible, mais elle a été tuée avec les combattants qui étaient avec elle sur les premières motos du convoi.
Et à ce moment-là, elle était depuis combien de temps en Centrafrique ?
En fait, elle avait passé à peu près les 8 derniers mois en Centrafrique avec une interruption à Noël. Elle était aussi retournée au Sud-Soudan qu'elle affectionnait beaucoup. Mais voilà, l'essentiel de ces 8 derniers mois, c'était passé en Centrafrique.
Et vous, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce film ? C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de recherche.
C'est Camille. Ça faisait longtemps, moi, que je réfléchissais à un film sur les reporters. Ça faisait longtemps que je réfléchissais à un film sur un conflit africain. Mais vous savez, souvent, on réfléchit à des trucs et puis on n'en fait rien. Parce que je trouvais pas d'histoire qui m'embarque vraiment. Et donc, c'est vraiment Camille qui m'a embarqué.
Parce sa qu'elle personnalité. Est
spéciale. Oui, sa personnalité. Enfin, ce que j'en ai deviné, ce que j'en ai appris ensuite. Sa manière de travailler, l'idéalisme qu'elle avait dans sa conception de son travail, dans ce qu'elle cherchait, qu'on pourrait définir comme ça en quelques mots, comme une quête d'humanité dans des endroits où l'humanité est parfois déniée.
Vous auriez pu la croiser, Camille, puisque vous avez vous aussi beaucoup travaillé en Afrique, Boris Lochkine. Ça n'a pas été le cas, je crois.
Non, je ne connaissais pas Camille avant de m'intéresser à elle, malheureusement seulement à partir de sa mort. Je ne connaissais pas la Centrafrique non plus. Moi, je connaissais un petit peu le Congo, Kinshasa, RDC à côté, mais pas la Centrafrique. C'est Camille qui m'a amené en Centrafrique.
Alors, on va revenir, Boris Lochkine, sur les 10 premières minutes de votre film. Donc, Camille, générique, premier plan. Alors là, extérieur jour, on est sur une route en Centrafrique, voilà, dans un pick-up qui soudain s'arrête.
On n'est pas dans un pick-up, on est dans un tank et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi ça a beaucoup d'importance.
Alors un tank, justement, on est dedans, donc on ne sait pas vraiment ce que c'est. Des hommes barrent la route et c'est le 12 mai 2014.
Voilà, le 12 mai 2014, là je pourrais dire qu'on est dans le fait divers, dans ce que la presse a raconté, c'est-à-dire qu'une patrouille de l'armée française, dans un véhicule armé blindé léger, intercepte un convoi d'anti-balaka.
Bleu unité. Bleu unité.
Bleu, j'écoute.
Il y a un convoi qui avance dans notre direction. Je répète, il y a un convoi qui avance dans notre direction.
Et à l'arrière de ce convoi, enfin dans le pick-up, il y a des corps. Et parmi ces corps, il y a le corps d'une jeune femme blanche, dont on apprendra bientôt que c'est Camille Lepage.
Alors justement, qu'est-ce qu'on voit à droite sur le pare-brise ?
Alors, il y a une sorte de mini-fenêtre que les soldats peuvent ouvrir pour sans ouvrir tout le pare-brise. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans ce cadre, c'est que ça donne comme une sorte de petit cadre sur la droite. Ça délimite un cadre à l'intérieur du cadre. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que C'était très important pour moi qu'on tourne cette scène d'ouverture du film dans ce petit blindé. Et donc ça a été une longue quête pour nous d'avoir un blindé en Centrafrique. Pas facile. Évidemment, on s'est adressé à l'armée française. Il reste une base militaire française à Mpoko, l'aéroport de Bangui.
Assez importante d'ailleurs, je crois.
Je sais pas, je suis pas allé, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a, mais je sais qu'ils ont des véhicules qui m'intéressaient beaucoup. Et donc, on les a sollicités très en amont, très en avance. Mais malgré de nombreuses tractations, malgré des soutiens à l'intérieur de l'armée, de ça, on n'a pas obtenu leur aide. Notre grande dame, on était très désolé qu'ils nous aident pas. Je pense que c'est le tournage du film arrivait à un moment où il y avait pas mal de sentiments anti-français à Bangui, alimentés entre autres par des polémiques entre français et russes. Et je pense que les responsables de l'armée française ont eu peur que faire sortir un blindé dans la ville, même si ce blindé allait se rendre sur un lieu de tournage tout à fait pacifique et pour rien faire d'autre que ça puisse alimenter des fake news ou des choses. Et donc ils nous ont pas aidés. Donc on était très très embêtés. Et heureusement, les Nations Unies nous ont prêté leurs tanks. Les Nations Unies qui soutenaient le projet, qui participaient à la sécurisation du tournage et qui étaient là souvent avec nous. Et donc on a tourné cette scène avec des soldats rwandais de la MINUSCA. Et ça détermine beaucoup de la mise en scène de cette scène, parce que ce blindé est un blindé blanc avec marqué UN en gros, ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas filmer l'extérieur du blindé. Donc tout forcément se passait de l'intérieur et on voit tout de l'intérieur, d'où ces premiers plans.
Il y a un 4x4, il y a une dizaine de motos. David, est-ce que tu vois des armes en haut? David, est-ce que tu vois des armes en haut?
Affirmatif, il y a des armes. Décalage.
Oui, confirmé, il y a des armes. C'est un groupe d'anti-balaka en approche. Qu'est-ce qu'on fait?
Où on avance vers la scène en restant du point de vue des soldats qui sont à l'intérieur, comme dans coincés dans leur coquille de noix.
Dans leur habitacle.
Je pense qu'on ressent leur peur de quand ils doivent sortir à l'extérieur.
La tension du plan est très forte.
Ok, on se prépare pour prise de contact. David, tu restes en haut. Stéphane, tu débarques à gauche, Galiano à droite.
Voilà, parce qu'on approche de ce convoi qui arrive en face, qu'ils approchent de nous aussi, qu'on les voit apparaître. Au début, on ne sait pas très bien.
Donc, c'est des jeunes gens armés, en moto, qui demandent à ce qu'on libère la route. On ne comprend pas forcément ce qu'ils disent.
Ils sont très véhéments, ils crient, ils sont énervés parce qu'ils ont eu des morts. Pour les soldats français, c'est très troublant. Ils ne savent pas à quoi s'attendre. Donc, on sent beaucoup la tension. On se dit que ça pourrait basculer, que ça pourrait dégénérer, que d'un côté ou de l'autre, quelqu'un pourrait tirer, que ça pourrait très mal tourner.
Donc ils sortent, les soldats sortent de ce midi-tank, donc la caméra également.
Voilà,
les
le
accompagne.
Sergent avance et on avance, la caméra avance avec ce sergent français qui va voir ce que tous ces jeunes gens, ces jeunes miliciens, qui ont la poitrine couverte de gris-gris de toutes les couleurs.
Des lunettes de soleil de couleurs extraordinaires.
Des lunettes de soleil à moitié cassées, des looks bizarres. Toutes choses qui caractérisent les anti-balakas, ce que les soldats français n'ont aucune peine à identifier tout de suite. Et que voilà, tous ces jeunes anti-balakas font signe aux soldats français d'aller voir quelque chose à l'arrière.
L'unité, il y a cinq corps à l'arrière du véhicule qu'on vient d'intercepter. Je répète, il y a cinq corps, il y a quatre centrafricains et le corps d'une femme blanche.
On va effectivement suivre le regard du militaire français qui dévoile l'arrière du pick-up. Là, on voit des jambes qui dépassent, cinq cadavres, dont celui de Camille qu'on reconnaît effectivement tout de suite, hein, puisque ce sont des jambes blanches.
Voilà, des jambes blanches au milieu des jambes noires et sur les pieds, les ongles du vernis rouge sur les pieds, qui est important. On verra plus tard dans le film une scène où Camille se met du vernis à ongles sur les pieds et je pense que le spectateur fait tout de suite le lien.
Et c'est une image saisissante. Est-ce que vous avez tout de suite su que le film commencerait par ça?
Alors tout de suite, qu'est-ce qu'on appelle tout de suite? En fait, je le savais avant le tournage.
Le scénario?
Ça s'est imposé comme... D'une part, ça me semblait évident qu'il n'y aurait pas de spoiler, on n'allait pas spoiler. Tout le monde sait que Camille Lepage est morte en Centrafrique. Donc je pense que ce n'est pas une grande surprise pour le spectateur qui voit la première scène d'apprendre que cette jeune femme est morte. On pourrait dire que ça élève le niveau de tout le film, ça met tout le film en tension en fait. C'est-à-dire que dès le début, on est dans cette tension, on sait que cette jeune femme va mourir bientôt. c'est comme si ça enclenchait une sorte de compte à rebours, qui est d'ailleurs pris en charge par certains cartons de date, puisqu'on voit la date de la mort est annoncée dans cette première scène, et par la suite les dates qui jalonnent le film et qui indiquent ce qui s'est passé à tel événement, à telle date, etc., nous rapprochent petit à petit de cette date qu'on sait être la date de sa mort.
Oui, l'ombre de la mort plane sur Camille. Alors, votre Camille, c'est Nina Meurice.
Oui.
Est-ce que c'était un choix difficile de trouver la comédienne qui pourrait incarner cette jeune femme que vous n'avez pas connue, mais dont la mort est si proche de nous ?
C'était un choix difficile pour moi, parce que j'ai passé beaucoup de temps, en fait, à faire une longue enquête pour Camille. J'ai l'impression d'avoir passé beaucoup de temps avec Camille, sans l'avoir jamais rencontrée, mais avoir passé beaucoup de temps avec Camille. Et je cherchais pas une actrice, moi. Je cherchais Camille. Et c'était presque une violence à me faire d'accepter de prendre une actrice. Donc je me suis lancé avec mon directeur de casting, David Bertrand, courageux, dans des castings improbables, où on a fait du casting sauvage, on a rencontré des centaines de jeunes femmes qui étaient pas du tout comédiennes, mais qui travaillaient dans l'humanitaire, qui travaillaient dans la photo, qui avaient vécu en Afrique, pour chercher une sorte d'autre Camille, avant de revenir à l'évidence, et que c'était une comédienne qui devait faire le rôle, et que pour ça, Nina était nettement, de manière évidente, celle qu'il nous fallait.
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle avait qui vous a... qui réveillait Camille ?
Les épaules et la lumière. Les épaules, c'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de comédiennes aussi, et il y en a beaucoup d'entre elles où, dès que je les imaginais dans une scène de terrain, en Afrique, j'y croyais pas. Je croyais pas que ces jeunes femmes étaient des journalistes, des reporters, qui étaient dans une zone du conflit, qu'elles pouvaient aller au contact avec un groupe armé, franchir un checkpoint, en gardant le sourire. J'y croyais pas. Elles avaient pas les épaules. Elles faisaient comédiennes, elles faisaient jeunes parisiennes, jolies, mais voilà. Donc il fallait les épaules pour ça, quelqu'un assez solide pour que je croie qu'elle vit toutes ces choses-là. Et puis la lumière, parce que Camille c'est un personnage habité, quelqu'un qui a une mission, quelqu'un qui croit très très fort à quelque chose, donc il fallait quelqu'un qui est dans les yeux, dans le regard et dans le sourire, quelque chose de cette lumière-là.
Alors Nina Meurice, Camille Lepage, on la découvre ensuite, il y a un cut hein, après cette première séquence, et on la découvre pas tout de suite de face, on la découvre de dos. C'est un flashback. On est un an plus tôt donc au festival Visa pour l'image, le festival des photojournalistes de Perpignan.
Oui, paraît-il le plus grand festival de photojournalisme du monde.
Alors ce choix de la filmer d'abord de dos, c'est aussi pour provoquer cette attente chez le spectateur ?
Oui, il y a une attente, on a envie. On a vu ses pieds d'abord dans la première scène, et uniquement ses pieds. Et il faut créer cette attente qu'elle se retourne et de voir son visage. Mais il faut dire aussi qu'on fait quand même ce début de manière assez osée, pas du tout de manière classique, notamment entre cette scène très, quand même assez... qui nous remue pas mal, la première scène, avec tous ces anti-balakas, cette énergie, ces gens qui crient, et puis ces cadavres et tout ça. Après ça, on attendrait généralement le titre, un noir, quelque chose qui sépare de la scène suivante. Or, on le fait pas. On plonge directement, entraîné là-dedans par la musique et par le son, sans transition, sans séparation, dans la scène suivante. Et il nous faut quelque chose, il nous faut un plan qui nous permette d'atterrir. Parce que c'est un atterrissage quand même assez, assez risqué.
Excuse me, do you have a minute?
You're not on my list, are you?
I just came from the Nuba Mountains.
I'm sorry, I really don't have the time,
Terrible
sorry.
Things are happening there, and nobody talks about it.
Yeah, we already did two or three articles
people
on that.
People are dying every day, nobody cares. Of course, 30 years of war, 2 million dead people. Everybody thinks nothing would ever change there. But it could. I don't believe they are cursed countries, do you?
Okay, you got me. What's your name?
Camille Lepage.
Alors là, Camille va accrocher hein, littéralement un homme pour lui vendre ses photos.
Oui, ça c'est des choses qu'on m'avait beaucoup racontées sur Camille Lepage, qu'elle était extrêmement rentre-dedans, qu'elle avait peur de rien. Mais c'est pas seulement qu'elle avait peur de rien pour aller trouver des anti-balakas ou pour aller dans des zones de conflit, c'est aussi qu'elle avait peur de rien pour pousser les portes de rédaction, pour appeler les gens, pour forcer les gens à regarder ses photos. Elle croyait tellement fort que ses photos étaient vraiment nécessaires qu'elle avait aucun problème à aller attraper les gens, y compris les gens très importants ce milieu-là, y compris, moi je sais pas, le directeur de Visa pour l'image Jean-François Leroy, ou des grands directeurs de la photo de grands magazines américains, pourquoi pas New York Times ou Spiegel, les Allemands, ou etc. Toute personne qu'elle a rencontrée à Visa, que j'ai rencontré moi, et qui m'ont raconté leurs entretiens avec elle.
Et là, c'est une rencontre importante, hein, ça mérite qu'on s'y arrête, parce que cet homme va lui donner une leçon. Une véritable leçon, même pas de photojournalisme, mais une leçon de journalisme.
Please go on.
Since 2012...
Talk to me about what you've seen.
A priest took me in his car to cross the border, and thanks to him, I met the commander of the Zodiac.
Oui,
alors
c'est... Voilà, d'éthique. Hein.
Mm-hmm. Alors, c'est une scène... Oui, c'est une scène très importante, parce que c'est, on peut dire que c'est la scène d'exposition du film. La première scène, ça nous balaye et ça nous remue dans tous les sens, comme une machine à laver. Mais c'est la scène où, tout d'un coup, on découvre le personnage, elle dit son nom, on comprend ce qu'elle fait, on comprend d'où elle vient, voilà, qu'est-ce qu'elle a vécu avant. Elle était au Sud-Soudan, elle a fait des photos dans les monts Nouba au Soudan, elle a affirme un petit peu ce en quoi elle croit, à savoir c'est important de témoigner sur les conflits oubliés, c'est important de mettre sa photographie au service de ces gens-là. Et puis on comprend aussi à quel niveau et à quel point elle en est de son métier. C'est-à-dire que elle a beau avoir fait toutes ces choses, ces reportages incroyables dans des endroits où peu de gens vont, mais au fond, elle est quand même malgré tout pas tout à fait très avancée dans le métier, et c'est encore difficile pour elle.
But I get the impression that you walk around with a camera and photograph everything that you witness. That's not what being a photographer is about. I mean, what are you really concerned about? Is it the war, the people, the culture? You have to choose.
I'm not good at editing. Maybe that's why.
Well, you can't edit if you don't know what you want to say. What's your style? Portraits? Or is it action? I don't know who you are as a photographer.
Et son interlocuteur lui dit justement, j'ai l'impression que vous vous baladez en photographiant tout ce que vous voyez.
C'est quasiment une expression que m'a racontée, que m'a dite sur Camille Lepage, la directrice photo du Monde, qui je pense est beaucoup moins dure que cet homme-là. C'est une dame charmante qui aimait beaucoup Camille et qui l'a beaucoup soutenue. Mais elle m'a dit que la première fois qu'elle a vu les photos de Camille, elle avait eu ce sentiment-là. C'est qu'elle était plus une journaliste qui se promène, s'intéresse à beaucoup de gens et qui, en plus de ça, a son appareil photo dans la poche et qui prend des photos, qu'une photographe vraiment. Et je crois que c'est quelque chose qui est peut-être surprenant pour le spectateur, qui était surprenant pour moi aussi, c'est que ce qui fait un photographe, c'est pas qu'il fait des belles photos, en fait. Moi, plusieurs directeurs de la photo m'ont dit ça, ils m'ont dit, mais tout le monde fait des belles photos. Depuis qu'il y a le numérique, les gens prennent 200 fois en photo chaque scène, il finit par y en avoir une bien dans le cadre, enfin une où tout s'harmonise dans le cadre, et donc c'est pas la belle photo qui fait le photographe, c'est d'avoir un regard, et d'avoir un regard, ça se manifeste à la manière dont on est capable de construire un editing pour présenter un portfolio à quelqu'un comme ça.
Un editing, c'est-à-dire qu'on recadre en fait
non,
dans un cliché,
on recadre,
c'est ça?
Non. Un editing, c'est que vous étiez en reportage, vous avez pris quoi, 10 000 photos et vous devez en montrer 20. Et ces 20 photos-là, c'est pas un best-of. Ça consiste pas à garder les plus belles photos. Ces 20 photos doivent raconter une histoire. La première photo, ça doit être « Il était une fois ». Ça vous plante le décor, ça vous emmène quelque part, ça vous donne envie. Et puis petit à petit, les choses se construisent, et puis ça monte, et puis vers une fin. Et ça, pour les photographes, pour les jeunes photographes, c'est très très difficile. C'est le plus difficile, parce que ça demande une grande conscience, à la fois de ce qu'on regarde, et aussi de sa manière à soi de regarder, de son style. Savoir c'est quoi mon style, moi, photographe. Et quand on est un jeune photographe, c'est ce qu'il y a de plus difficile, en fait.
Alors, scène suivante, Camille est dans le train, elle réfléchit et de la main, elle recadre une de ses photos. Et à ce moment du film, on comprend qu'on va être vraiment embarqué avec Camille.
Oui, c'est vrai que c'est un des enjeux principaux du film pour moi, c'est qu'on rentre dans son regard. C'est-à-dire qu'on, non seulement qu'on soit embarqué dans son histoire, ce qui est assez classique, je dirais, quand on suit quelqu'un dans un film, mais qu'on soit vraiment embarqué dans son regard. C'est-à-dire que non seulement on s'attache à elle, qu'on ait peur pour elle, mais qu'aussi on commence à regarder avec ses yeux, comme elle, à se demander qu'est-ce qu'elle regarde, qu'est-ce qu'il faut regarder là, comment je dois regarder, qu'est-ce que ça raconte. C'est-à-dire que le spectateur lui-même soit actif et puisse regarder le film en photographe, en fait. Et voilà, c'était important, cette scène, elle vient de se faire casser par ce directeur photo, un peu méchant, mais pas si méchant que ça en fait, mais juste...
Il lui dit, quel photographe voulez-vous être ?
Oui, voilà, qui la renvoie à la question fondamentale pour un photographe ou pour un cinéaste, vous avez raison de le dire. Mais voilà, ce qui était important, c'est de montrer que Camille ne s'effondre pas. C'est pas une petite nature, et puis c'est quelqu'un de très déterminé. On lui a dit quelque chose, elle réfléchit. elle réfléchit, elle revoit ses photos, elle dit mais ces photos finalement, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est de la merde, est-ce que ça vaut pas grand chose, ou est-ce que ça vaut quelque chose quand même, est-ce qu'il faut que je continue, est-ce qu'il faut que je m'obstine.
Ça va aller?
Ouais, ouais.
Bon, puis tu prends pas de risque, hein?
Promis.
Promis. On m'a déjà dit ça la dernière fois et t'en as pris, hein.
Séquence suivante, hein? Camille Lepage retrouve sa mère. Vous avez choisi Mireille Perrier.
Oui, Mireille Perrier, qui est magnifique, que j'adore.
Qui est vraiment, et sa mère, c'est vraiment un des personnages très importants. Qu'il a toujours soutenu.
Alors c'est un personnage très important dans la vraie vie, c'est un personnage très important dans le film aussi, même si on la voit très peu. Finalement, il y a très peu de scènes avec elle dans le film, parce que c'est vrai que je m'intéresse plus à Camille sur le terrain qu'à Camille dans la famille. Et donc, c'est des choix qui ont été faits au scénario, et puis après encore au montage. On a supprimé quelques scènes où on avait d'autres scènes avec la famille. On a gardé que ce moment, finalement, d'au revoir à la gare, parce qu'on a envie de partir vite sur le terrain.
Elle lui dit, tu ne prends pas trop de risques. Camille lui dit non, mais en fait...
Voilà. Mais c'était très important d'avoir quand même si j'en voulais pas trop, c'est très important d'avoir une scène avec la famille avant la Centrafrique, parce que ça donne... pour le spectateur, quelque chose qui l'accroche de manière très émotionnelle, très empathique à Camille. C'est très important d'avoir cette inquiétude de la mère avant de s'envoler pour la Centrafrique, où elle va vivre des choses assez, assez limites, on pourrait dire.
Alors justement, scène suivante, extérieur jour, on est à Bangui, au cœur d'une manifestation. Et Camille prend des photos.
Oui, c'est une manifestation qui a vraiment existé. J'en ai vu des images tournées par France 24, je crois. J'en ai vu évidemment les photos de Camille. C'est la première scène qu'on a tournée en Centrafrique. Je sais qu'il y a des gens dans mon équipe qui disent « Oh là là, on pourrait pas commencer par un truc plus petit et tout ça. »
Plus calme.
Ouais, mais c'est calme là encore par rapport à ce qui va arriver après. Mais voilà, c'était important pour moi de marquer un grand coup tout de suite. Et c'est important pour entraîner une équipe dans une aventure comme ça, que tout de suite on marque un grand coup. Et donc cette scène, on l'a tournée, donc c'est une reconstitution de la manifestation après l'assassinat du juge Bria. Donc c'est une manifestation dans laquelle se mêlent à la fois des juges qui sont descendus pour protester contre les exactions de la Séléka et des jeunes de la ville et beaucoup d'étudiants. Scène au cours de laquelle Camille va rencontrer les étudiants.
Et c'est la fac qui est là-bas ?
Oui. Et toi, tu es journaliste ?
Ouais.
Et vraiment, cette première scène tournée à Bangui, c'était un grand moment très 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 joyeux en fait. On tourne ça avenue Boganda, la principale avenue de la ville. Donc on a bloqué avenue Boganda. On a montré quand même qu'on était très fort tout de suite.
C'était pas compliqué d'obtenir les autorisations.
Bien sûr, c'est compliqué, mais en même temps, mais ça s'est fait. C'est-à-dire que ça a pris du temps, mais ça s'est fait et ça s'est très bien fait. Je dois dire que les autorités centrafricaines ont été très bienveillantes pour le film, très partie prenante. C'est eux qui ont sécurisé, c'est vraiment la police et la gendarmerie centrafricaine qui ont sécurisé le tournage du début à la fin, tous les jours. On avait des réunions pour planifier tout ça chaque semaine. Enfin, vraiment, c'était une très belle collaboration avec les autorités centrafricaines. Mais pour revenir aux jeunes, eux, pouvoir comme ça manifester, tourner cette scène, on bloque l'avenue Boganda, ils sont au milieu de l'avenue, ils gueulent, ils font... Mais c'était comme une sorte de prise de pouvoir, donc ça donnait c'était beaucoup de bonheur. Pour eux.
Et ce qu'on comprend aussi dans cette scène, Boris, c'est que parce qu'elle a le même âge qu'eux, donc elle est à peine plus âgée qu'eux, ça va créer une sorte de dynamique qui ne pourrait pas exister si elle avait 50 ou 60 ans.
Bah oui, si elle avait mon âge, quoi. Enfin, je sais pas, 60 ans. Mais c'est des choses que j'avais lues dans des choses que Camille Lepage avait écrit. Elle disait souvent ça, par exemple, pour parler des jeunes dans un groupe armé. Elle commençait son texte en disant, ils ont mon âge. Chose très frappante. Et effectivement, c'est-à-dire que, voilà, c'est pas d'abord, des jeunes miliciens, c'est d'abord, ils ont mon âge. Bon, là, en plus, il s'agit d'étudiants. Elle est journaliste, eux, ils sont, manifestants. Elle est blanche, ils sont noirs, mais ils ont ça en commun, la jeunesse.
Et puis ils l'emmènent donc lui montrer leur université, là où ils habitent, et elle, en fait, elle partage aussi un moment de leur vie. En fait.
Oui, elle rentre dans une forme d'intimité avec eux, dans ces bâtiments que moi je trouve extraordinaires, les bâtiments de l'université de Bangui, qui sont un peu décrépits, mais où on voit quand même la trace de cette architecture très très singulière, construite dans les années 70-80. Je ne sais pas d'où vient cette architecture, mais moi j'ai ces bâtiments comme ça, de béton, avec des dessins gris, noir, blanc, que je trouve très graphique comme ça, quelque chose de très beau. J'aurais adoré en filmer beaucoup, beaucoup plus de cette université, mais bon, après, c'était pas le sujet du film, mais voilà, oui, elle rentre dans une forme d'intimité avec eux.
J'ai 25 ans.
Ouais.
Non, t'as tolère de venir comme ça dans un pays en crise comme ça?
Mais pourquoi tu me trouves trop vieille? Trop jeune?
Pas peur. Trop jeune. Non,
trop jeune.
Tu n'as pas peur de venir chez nous ici avec les coups de feu?
Bah ça m'intéresse.
Ah bon?
D'accord.
Ça t'intéresse en quoi?
Courageuse, toi.
Et nous, ça nous rapporte quoi?
Oui, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne?
Tu parles de nous et tout.
Oui, mais qu'est-ce qu'on gagne?
Quand tu fais une manifestation, toi, qu'est-ce que tu gagnes?
Mais tu vois, c'est pour le pays, tu vois. Mais...
Bah voilà, bah moi c'est pareil. Si j'avais envie de gagner beaucoup d'argent, je viendrais pas ici. Moi je suis là parce que j'ai envie que les gens s'intéressent à ce qui se passe ici. J'ai envie de défendre votre pays, que les gens viennent en aide à ce qui se passe là.
Toi tu es mariée?
Vous parlez tout le temps d'argent, mais on peut parler d'autre chose.
Sans se dire que c'est utilitaire ou utilitariste.
C'est les deux à la fois, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, elle fait son travail, puis en même temps, ils l'acceptent. Et puis, eux, ils sont contents d'être avec cette jeune femme blanche qui vient s'intéresser à eux. Il y a un vrai plaisir partagé.
Et dans le film, on voit qu'ils sont tout de suite dans le vif du sujet, quoi. C'est-à-dire, ils nous posent des questions. Comment tu travailles? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es ici? J'imagine que c'est des questions qu'on vous a posées à vous aussi.
Là, je dirais que c'est beaucoup mon expérience personnelle qui fait que j'écris le scénario comme ça. Ce qui me frappe beaucoup quand je suis en Afrique, et entre autres en Centrafrique, c'est que je suis beaucoup interpellé, en fait, sur qui je suis, qu'est-ce que je fais là. Éventuellement, qu'est-ce que je vais faire pour les gens qui sont en face de moi? On est sans cesse obligé de se justifier et d'être là, en fait, de vraiment faire acte de présence. On peut pas se cacher derrière son doigt, on peut pas faire le timide, on peut pas esquiver, on est obligé d'être vraiment là, et de donner pleinement de sa personne.
Et à la question de l'argent qui revient tout le temps, il y a toujours ce soupçon, hein. Qu'elle va faire de l'argent sur leur dos.
Alors c'est un soupçon dans les deux sens, en fait. Le soupçon, les Centrafricains la soupçonnent de faire de l'argent avec ses photos et donc d'être exploité. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, quand on est photographe, je pense qu'on entend toujours. Et aussi si on fait du cinéma documentaire, on va entendre ça beaucoup. Voilà, les gens filmés ou les gens photographiés disent: mais toi tu fais de l'argent avec nous, donc tu profites de nous, donc et nous qu'est-ce qu'on gagne? Ça, c'est une phrase qu'on entend toujours. Mais il y a le soupçon dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire Camille aussi les soupçonne de vouloir de l'argent, alors qu'ils sont aussi très pleins de curiosité. Et lui dit: mais non, on t'a aussi posé d'autres questions. On demande aussi: mais est-ce que t'es marié? Est-ce que t'as des enfants? Et tes parents, qu'est-ce qu'ils pensent?
On a la notation, c'est qu'il y a beaucoup de paquets aussi.
200. Pas le temps.
Non, c'est 200.
C'est 150, hein. Okay. Paye pas plus.
Ok. On t'attend pour demain.
Ouais, demain.
Au revoir.
Puis Camille va prendre un mototaxi, le chauffeur a un bonnet un peu quoi, rasta.
Ouais, un peu rasta. Je dois dire que j'ai laissé composer son look tout seul, mais j'aime bien les lunettes de soleil, le bonnet vert, jaune, rouge.
Il y a un travelling, elle a des lunettes aviateur.
Ouais,
des
ça c'est vraiment baroudeuse. C'est vraiment les lunettes de Camille Lepage. Enfin, je veux dire, c'est pas assez vrai à elle, mais c'est le même
modèle.
C'est le même modèle, oui. On a beaucoup reproduit d'ailleurs pour Camille ses lunettes, ce collier qu'elle a de perles multicolores qu'on a fait fabriquer pour imiter des colliers qu'on a vus sur les photos, ses bagues, ses bracelets, les t-shirts. On a beaucoup copié son vrai look.
Et d'ailleurs, la mère de Camille Lepage, qui était interviewée par le quotidien Libération, il y a eu un portrait d'elle, disait qu'à l'origine, elle n'était pas forcément elle. Sa mère, donc favorable à un film sur sa fille, mais qu'elle a été bouleversée en voyant les images, en retrouvant sa fille.
Oui, enfin Marie-Vonne était convaincue par le film avant. Elle m'a effectivement avoué qu'elle avait voté contre le film et que c'était
en réunion de famille.
Voilà, ils ont voté, ils étaient trois, et le père et le frère ont voté pour, elle était contre. Mais après, elle a respecté la décision majoritaire. Et puis maintenant, on est très liés avec Marie-Vonne et elle a suivi tout le processus du film, et bien en amont du tournage, enfin dès le scénario. Je lui ai fait lire plusieurs versions de scénario, je lui ai expliqué qu'est-ce que je faisais, comment je travaillais, qui je rencontrais. Donc on était vraiment en communication constante.
Je voulais savoir aussi comment vous aviez dirigé Nina Meurice, parce que sur les photos qu'on a de Camille Lepage, elle est très souriante. Mmh. On voit et au début du film aussi, votre Camille, Nina Meurice, est aussi très souriante, ce qui va au fur et à mesure du film, quand elle va découvrir elle va être témoin et photographier des scènes très dures. Elle va gagner en gravité.
Oui, enfin, elle perd pas son sourire, parce que si je me souviens bien, le dernier plan sur Camille est un grand sourire, qui est, je pense, le plus beau sourire du film. Donc, non, elle garde ce sourire. Je pense que la vraie Camille avait ça aussi, ce grand sourire. Enfin, un mélange étrange, moi, qui m'avait frappé dès la première photo que j'ai vue d'elle dans le journal, le jour de sa mort, où à la fois, il y avait ce grand sourire avec plein de dents, comme ça, éclatant, et en même temps, on voit ses yeux et on se dit, mais celle-là, elle sait ce qu'elle veut, on pourrait presque dire, c'est une teigne. Enfin, elle est accrochée, c'est une fonceuse. Enfin, la détermination et le sourire en même temps, les deux. Donc comment j'ai dirigé Nina? Bon, en fait, je l'ai pas dirigé, moi je sais pas diriger les acteurs. Donc je l'ai laissé faire, je lui ai fabriqué une arène de jeu et après on l'a lancé dedans et elle s'est débrouillée. Donc ça a pas été facile pour elle tous les jours, mais c'était ça qui était intéressant en fait, c'était l'interaction entre elle et tout ce qui se passait autour d'elle, c'est-à-dire tous les comédiens enfin autour d'elle, mais pas seulement les comédiens, les figurants et puis l'ambiance sur le plateau, mais aussi l'ambiance en dehors du plateau, tout le pays en fait. Tout ça qui interagit avec Nina.
Ce travelling sur le mototaxi dont parlait Sophie, il est magnifique parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle fonce vers son destin. Et puis ça permet aussi de découvrir progressivement la ville de Bangui. Est-ce que c'était important pour vous d'être à la hauteur de ce qu'a vécu Camille?
Bah oui,
et de son travail, bien sûr.
Forcément, quand on s'empare de la vie de quelqu'un qui a existé, et puis quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, forcément, on a peur de pas être à la hauteur, on a peur de la trahir, on a peur. Les photos de Camille nous ont beaucoup guidés pour toutes les reconstitutions des scènes, des manifestations, des pillages,
Et puis vous en avez fait un usage aussi brillant, dans le film.
Merci.
Des vraies photos de Camille.
Oui. Il y a beaucoup de photos qui sont insérées dans le film, ce qui donne une forme pas tout à fait classique au film, qui parfois, comme ça, mélange différents types de supports, les images de fiction, les images de cinéma, les photos de Camille, parfois même quelques tout petits bouts d'archives télévisées. Ce qui est très important pour donner aux spectateurs le sentiment du réel, en fait. Le sentiment que ce qu'on décrit, c'est du cinéma, certes, mais c'est pas que du cinéma. C'est que ça, il y a du hors-champ, il y a de la grande histoire, par-delà la petite histoire, il y a tout ça.
En quoi elle vous touche, cette jeune femme, alors très courageuse, même un peu casse-cou, on peut le dire, qui a beaucoup de valeurs, qui se pose beaucoup de questions, en même temps qui est un peu naïve, face à ce pays qui bascule dans le chaos, dans la guerre civile, parce que c'est la collision de deux mondes.
Vous avez répondu à la question déjà dans votre question. En fait.
Ah mais non.
Mais si, vous avez dit exactement tout ce qu'il faut pour me bouleverser en fait. Cette jeune femme, je sais plus comment vous l'avez dit, mais tout ça, c'est-à-dire le mélange entre ce grand idéalisme qu'on pourrait qualifier de naïveté un petit peu, mais en même temps de grande solidité. Camille, c'est pas une jeune femme tête en l'air, c'est pas une écervelée du tout. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui est très informé. Voilà, et puis c'est quelqu'un qui va loin. Et c'est quelqu'un qui est dans une quête. Et au fond, Camille, c'est moi.
Qu'est-ce qui la meut pour vous? C'est la même chose que pour vous, justement, Boris?
J'espère. C'est une quête d'humanité. Une quête d'humanité dans des situations compliquées, dans des endroits où on ne va pas forcément la chercher. Et moi, c'est ça qui me bouleverse chez Camille. C'est le fait de se donner pour mission d'aller chercher quelque chose si loin de chez soi, si loin de soi même, avec des gens qu'on pourrait juger difficiles d'accès, difficiles d'abord, difficiles à aimer même, et d'aller chercher l'humanité là-bas.
Moi, ce qui me frappe, c'est que souvent, on a l'impression chez les photojournalistes qu'il y a un désir d'ailleurs. Et ce qu'on sent chez elles, très fortement, c'est finalement pas tellement le désir d'ailleurs, c'est le désir de l'autre, de se confronter à l'autre.
C'est un désir de l'autre, mais en même temps, sur le fond aussi du même. C'est-à-dire que moi, quand je vois toutes les photos de Camille...
Sur un fond d'humanité commune.
Voilà, sur un fond de fraternité, en fait. Quand je vois les photos de Camille, j'ai l'impression que même quand elle décrit tel ou tel événement dramatique, elle est tout le temps en train de faire un portrait de la jeunesse. C'est ça qui me frappe le plus, moi. Ces photos, si on prend par exemple les photos du pillage de la mosquée Fou, dont certaines sont montrées dans le film, ou les photos des manifestations, quelles que soient les photos qu'elle ait prises le jour de cette manifestation des juges ou le jour d'autres événements comme ça, j'ai toujours l'impression de voir une photo de la jeunesse. C'est toujours la jeunesse qui éclate de vie comme ça. Voilà, et c'est la jeunesse prise en photo par cette jeune femme elle-même très jeune.
Et vous, qu'est-ce qui vous pousse à partir en Centrafrique, en RDC, quand vous avez tourné Hope en 2015, donc c'était votre...
Ma première fiction,
de fiction.
Qu'est-ce qui me pousse? Ben, j'en sais rien en fait. On va aller demander ça à mon psy.
Peut-être à vous quand même.
Moi, j'ai toujours le sentiment qu'il y a des histoires plus fortes à raconter ailleurs que ici.
Ici en France.
Ouais, que mon environnement, à moi, classe moyenne, européenne, finalement, pas très intéressant. trop polissé, trop lisse, trop gris. Ça me frappe même en regardant les images. Vous regardez les images, vous voyez la France, c'est tout gris. Vous êtes, dès qu'on est en Afrique, mais la couleur éclate partout.
Il y a la terre ocre, il y a le, voilà. La lumière aussi.
Il y a les t-shirts multicolores, ou alors après c'est les gris-gris qui sont multicolores. Il y a quelque chose qui éclate tout. Et c'est pas seulement dans les couleurs, c'est pas seulement visuel. C'est aussi quelque chose d'une force de vie qui est hallucinante, en fait. Alors ça va dans tous les sens. Ça va aussi dans le tragique et la violence, mais ça va aussi dans des manifestations d'enthousiasme et de beauté miraculeuse.
Pour vous, Boris Lochkine, tourner en Centrafrique, c'était une obligation?
Ah oui, non négociable.
Si les conditions, parce que les conditions du pays, enfin j'imagine que les assureurs, les producteurs, les financeurs ont poussé des hauts cris,
J'ai la chance d'avoir un producteur avec qui j'ai fait mon film précédent déjà, donc il a un peu l'habitude qu'avec moi ça va être des trucs compliqués, mais que c'est comme ça qu'on c'est comme ça quoi.
Olivier Nahon.
Bruno Nahon. Oui, Bruno Nahon. Mais voilà, vous dites Olivier parce que Olivier Collin, qui est le directeur de l'Alliance française de Bangui, a assuré la production exécutive. Voilà, il a eu aussi un grand rôle dans le film. Mais oui, donc j'ai un producteur qui me fait confiance et ça c'est très 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 précieux, surtout pour s'embarquer dans une aventure comme ça. Évidemment que la question des assurances s'est posée, surtout que 6 mois avant le tournage, il y a eu une tuerie à Fatima, qui est un quartier limitrophe du PK5, la dernière enclave musulmane de la ville. Et dans les semaines qui ont suivi, on a craint que ce soit l'embrasement général à Bangui de nouveau, que ça redevienne comme en 2013-2014. Et forcément, si ça arrivait pendant le tournage, il n'y avait plus de tournage. Donc la question se posait, et en même temps, je n'ai jamais réussi, mais ça c'est ma limite personnelle, hein, j'y peux rien, j'ai jamais réussi à avoir la force psychologique de préparer un plan B. Donc il n'y a jamais eu de plan B en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'était nécessaire de tourner en Centrafrique, et c'est pas une question de décor. Parce que je suis sûr qu'on peut trouver des décors équivalents au Cameroun ou je sais pas où, ailleurs, dans un pays voisin, sans doute. Mais tourner en Centrafrique, c'est une cohérence de sens, en fait. Tourner en Centrafrique où Camille a vécu, où Camille est morte, et un film qui raconte l'histoire de la Centrafrique, qui raconte l'histoire de cette jeunesse centrafricaine, il faut le faire en Centrafrique. Et puis ça va aussi avec tout ce que j'ai fait autour, avec le travail de formation que j'ai fait autour pour aider de jeunes Centrafricains à commencer un chemin de cinéma pour accompagner l'émergence d'une nouvelle génération de cinéastes centrafricains. Tout ça va en sens, en fait.
Et ce sont eux, d'ailleurs, qui ont participé au tournage.
Bien sûr, ils ont participé au tournage, mais ils en ont été les meilleurs alliés. Enfin, sans eux, on n'aurait pas pu faire ce film. En tout cas, on n'aurait pas pu le faire comme ça. C'est-à-dire que c'était absolument indispensable et précieux d'avoir dans l'équipe tous ces jeunes avec qui j'avais des relations de confiance parce qu'on avait travaillé ensemble déjà depuis 2 ans. Et qui n'étaient pas là que pour des raisons mercantiles, qui n'étaient pas là que pour l'argent, mais qui étaient là aussi parce que il y avait un lien entre nous, et aussi parce que ça faisait partie de leur chemin d'apprentissage du cinéma, et aussi parce que ça racontait l'histoire de leur pays, qu'ils en étaient fiers. Voilà, tout ça ensemble.
C'est eux qui font la figuration, par exemple, dans les étudiants que rencontre Camille?
Parfois. Donc, on a par exemple Rafiki Fariala, dont on a parlé ici à RFI une fois, parce qu'il avait fait ce très beau film documentaire Mbinamo. Et qui, Rafiki Fariala, qui joue l'un des étudiants, celui qui se met tout d'un coup à slammer et à improviser autour du nom de Camille.
Vous avez procédé à une sorte de casting aussi?
Un vrai casting, je vous rassure.
Et beaucoup de candidats pour participer à ce tournage?
Beaucoup, beaucoup, oui, j'ai rencontré. Donc c'est vrai que je cherchais principalement les 3 rôles d'étudiants qui sont les 3 rôles centrafricains saillants du film. Cyril, Abdou, Leïla. Donc j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de jeunes et surtout d'étudiants parce qu'il fallait des étudiants pour avoir des gens qui ont le niveau de français nécessaire et ça se voit tout de suite en fait. Donc j'ai fait d'une part du casting à Alliance Française, il y a des centaines de gens qui sont venus. Ensuite je suis allé à l'université beaucoup, j'ai beaucoup traîné à l'université, j'ai fait des castings là-bas, j'ai abordé des gens, voilà. Et puis finalement, j'ai rencontré Cyril devant le stade de foot en fait. Voilà, il y avait un gros match de foot, donc je venais faire du casting sauvage, je venais aborder tous les gens qui me tapaient dans l'œil. Et lui, tout de suite, j'ai trouvé de loin comme ça, je l'ai vu arriver, et j'ai trouvé dans sa silhouette, son port, sa manière, son visage, quelque chose qui m'a frappé. Donc je l'ai invité à venir faire un essai à l'Alliance, où il m'a tout de suite bouleversé en fait.
Et ils sont tous extraordinaires dans le film.
Bah merci pour eux.
Est-ce qu'il y a un fort désir de cinéma en Afrique ?
Ah, énorme, énorme. C'est pour ça que c'était génial quand on a fait ces formations là-bas. C'est parce que on pouvait prendre que 10 personnes pour les accompagner dans la réalisation d'un premier film documentaire, mais on avait 150 candidats tout de suite. Et maintenant que notre entreprise est connue, quand on va refaire un appel à candidature, j'imagine qu'on en aura encore beaucoup plus. Non, il y a un énorme désir. Souvent frustré parce que les gens ont pas les moyens de faire les films. Quand je dis moyens, c'est pas seulement les moyens techniques, parce qu'aujourd'hui on peut faire des films avec peu de choses techniquement, mais c'est l'apprentissage de la grammaire, c'est-à-dire comment on écrit un film, comment ça se conçoit, comment ça se tourne.
Et ces films sont magnifiques. Je crois qu'on peut les voir d'ailleurs, ou en tout cas certains, sur le site des ateliers.
Oui,
Varan.
Ils sont maintenant en ligne sur le site des ateliers Varan.
Voilà, on le dit aux auditeurs de RFI.
Voilà, regardez sur le site des ateliers Varan les 10 films documentaires tournés dans le cadre de l'atelier Varan RCA. Et on en a bientôt 10 autres qui sortent du four, une
prochaine
nouvelle
fournée. Session.
Ouais.
Voilà, et puis Boris Lochkine, plus récemment, il y a quelques semaines, vous êtes aussi retourné en Centrafrique pour présenter Camille.
Oui.
À Bangui. C'est un reportage de notre correspondante Charlotte Cossé.
Bangui apparaît sur les écrans. Des images de violence au plus fort de la crise de 2013 et 2014. Au moment les plus intenses, la salle est plongée dans le silence. Rafiki est ému.
J'étais trop touché de revoir les images qui m'ont rappelé plus les événements du passé, la mort, les silicas, les balakas. Je me disais, c'est vraiment ce qu'on avait subi. C'est comme si ça a encore réveillé un esprit, ça révoltait un peu quelque chose en moi.
Pour le ministre de la Communication, Ange-Maxime Kazaghi, l'émotion est grande aussi. Mais pour lui, ce film est également porteur d'espoir.
C'est une opportunité qui est donnée d'exposer notre pays autrement, d'avoir un autre regard et puis peut-être de comprendre quelques ressorts de cette crise dont nous peinons à sortir, mais pour lesquels nous continuons, nous, le gouvernement, à travailler jour après jour.
Beaucoup à la sortie de la salle ont émis l'espoir de trouver des solutions à la crise. Cette semaine, deux leaders de groupes armés sont apparus devant la cour de la CPI à La Haye. Charlotte Cossé, Bangui, RFI.
Voilà, un reportage, on comprend qu'il y avait beaucoup d'émotions hein, ce soir-là dans la salle.
Oui, beaucoup d'émotions. Alors, faut dire
pour vous aussi, j'imagine.
Pour moi aussi, c'était très nécessaire de montrer le film à Bangui avant qu'il sorte en France. Je voulais pas que les Centrafricains voient toute la presse française et se disent « mais tout le monde a vu le film sauf nous ». Voilà, j'aurais vraiment pas voulu ça. C'est très particulier. Il faut imaginer à quoi ressemble une projection à Bangui, et encore plus quand c'est une projection en plein air devant la vraie jeunesse de Bangui. Je veux dire, pas devant les notables simplement. C'est très animé, c'est du spectacle vivant. Tout le monde participe, les gens applaudissent. Quand il y a un coup de feu, les gens applaudissent. Quand ils voient quelqu'un, ils trouvent le déguisement est cool. Par exemple, cet anti-balaka qui porte des lunettes de piscine, ils applaudissent tous. Quand il y a le discours anti-colonisation de Cyril, ils applaudissent tous aussi. Et paf, dans les dents, ils sont très contents. Voilà, mais à côté de ça, à côté de ce côté très un peu remuant, joyeux et tout ça, quand sont arrivées les scènes qui vraiment reconstituent, refont vivre la crise centrafricaine, où se mélangent en plus le film, les images d'archives, les photos. Pour les gens, c'était très très bouleversant, parce que tous ont des souvenirs liés à cette crise. Donc ça les replongeait quelques années en arrière, et c'était très très troublant pour eux. C'était du coup là, la salle était absolument silencieuse. Cette salle très très remuante, tout d'un coup devenait silencieuse.
Comment vous le définiriez, le lien entre Camille et l'Afrique ? Qui est assez mystérieux, c'est-à-dire, est-ce que vous comprenez pourquoi, après Noël 2014, alors qu'on lui propose de partir en Ukraine, qu'elle s'est fait un nom déjà, on le sent bien, elle décide de rentrer en Centrafrique?
Bon, à la fois, je pourrais dire plein de choses, et en même temps, j'ai l'impression qu'il reste comme un mystère. Moi, j'ai rencontré à peu près beaucoup des gens qui ont connu Camille, et qui m'ont comme ça tracé un portrait à facettes de la vraie Camille Lepage. Donc, à la fois, j'ai l'impression de la connaître très bien, par tout ce que tous ces gens m'ont raconté, et en même temps l'impression que voilà, au centre de tout ça, il reste un mystère, et je trouve ça bien qu'il reste un mystère. Je trouve ça bien qu'il reste un mystère dans le film, qu'il reste un mystère pour moi de pourquoi cette jeune femme fait tout ça. Après, sur la question précisément que vous posez, pourquoi elle retourne en Centrafrique, je crois que c'était très 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 clair pour Camille que elle ne voulait pas être une photographe de guerre. Camille Lepage, c'est l'histoire d'une jeune femme qui ne voulait pas être photographe de guerre. Donc pas question d'aller ici parce que c'est l'actualité, puis d'aller aujourd'hui en Centrafrique, demain elle va en Ukraine, après-demain elle va aller en Irak, et puis après elle retourne en Syrie, et puis après... Non, c'est pas la vie qu'elle voulait en fait.
D'ailleurs, il y a une scène dans le film où elle rencontre des journalistes français, un journaliste du Monde et puis des photoreporters, et il y en a un qui lui dit, il lui raconte un peu en gros ses guerres, et elle semble assez horrifiée.
Sceptique en tout cas, sceptique. Alors c'est important, encore une fois, il n'y a pas de jugement dans le film sur ces personnages, notamment ces personnages de journalistes ou de photographes.
Non mais on sent qu'elle n'est pas
mais elle n'est pas
d'accord,
voilà. Mais c'est très important pour moi que quand même tous ces personnages, leurs arguments soient audibles et justes, et ce qu'il lui dit est pas inintéressant, ce qu'il lui dit par exemple sur le fait que lui ça lui semble illusoire de croire être en fusion avec les gens sur lesquels on fait des photos et être en fusion comme ça avec la population du pays dans lequel on travaille. Mais oui, Camille n'est pas comme ça. Camille ne veut pas être comme ça. Camille n'avait pas envie de devenir vieille et aigrie. Faut dire quand même qu'il y a beaucoup de solidarité chez les journalistes. Il y a à la fois une différence de classe. C'est-à-dire que il y a deux classes, hein. Il y a les freelances qui ont rien en gros, et puis il y a ceux qui viennent pour une rédaction, qui sont soit appartiennent à la rédaction, soit qui sont en commande, qui ont non seulement un bon salaire, mais qui en plus ont des frais de mission pour payer voiture, fixeur, chauffeur, hôtel et tout ça. Alors que les freelances, eux, c'est très très compliqué puisque on leur donne pas de frais, donc ils doivent se débrouiller avec le peu qu'on leur achète, leur pige, pour y arriver. Et vraiment financièrement pour les freelances, et j'en profite pour le dire de manière générale, par-delà Camille Lepage, le statut des freelances dans la photographie et dans le journalisme en général est très 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 compliqué. La plupart des correspondants qui sont à l'étranger, dans tous ces pays, et notamment dans les zones compliquées, dans les zones de conflit, dans les zones de guerre, sont des freelances qui gagnent à peine de quoi vivre, qui n'ont pas de sécurité sociale, qui n'ont pas de retraite, qui n'ont rien.
Pas d'assurance parfois.
Et pas d'assurance non plus.
Et il y a une scène cruciale dans le film, c'est celle du lynchage. Parce qu'on voit que les journalistes sont là, voilà, ils photographient.
Camille aussi photographie.
Au lieu de s'interposer. Et là, effectivement, c'est peut-être l'écho des questions que vous êtes posées à vous-même. Le spectateur ne peut pas s'empêcher de se dire qu'est-ce que j'aurais fait à leur place.
Oui, mais surtout Camille se demande. C'est-à-dire que la scène du lynchage va avec la scène qui suit. C'est vraiment les deux scènes sont collées et vont ensemble. C'est-à-dire qu'il y a cette scène terrible où des jeunes de la population lynchent un homme en pensant qu'il est musulman, ce qui est même pas très sûr. Et la scène suivante où les photographes qui viennent de prendre en photo cette scène se demandent qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant. Est-ce qu'ils ont bien fait de prendre en photo cette scène? Est-ce qu'ils doivent envoyer les photos à leur rédaction à Paris? Et Camille qui est là. Et la scène est vraiment filmée de son point de vue. Souvent, dans la scène, les autres journalistes sont un peu flous, ils sont en arrière-plan. On est vraiment sur son visage à elle et on entend les discussions. Et Camille, qui a pris elle aussi les photos, tout d'un coup, s'interroge sur ce qu'elle-même a fait, doit faire et veut faire.
C'est un point de bascule.
C'est un point de bascule du film. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce métier auquel elle croit depuis le début, qui est le plus beau métier du monde, le métier le plus noble, la plus belle chose que de s'engager pour défendre des populations, pour donner à entendre la souffrance de populations oubliées, tout d'un coup, elle se demande mais finalement, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est pas juste dégueulasse? Est-ce que c'est pas horrible? Et encore une fois, je pense que c'est important dans le film, il n'y a pas de réponse simple. Aucune réponse simple à ces questions. Je pense que le journalisme et la photographie en zone de guerre posent plein de questions très complexes. Et c'est pas un film qui irait vous donner une leçon qu'il faut faire comme ci et pas comme ça.
C'est un film qui parle de choses très dures, mais dans le même temps, il y a une forme de douceur qui étonne et puis qui émerveille.
La douceur, c'est à la fois Camille et puis c'est sa relation avec le pays, c'est ce qui finit par se nouer. C'est pas facile, mais ce qui finit par se nouer avec ce pays. Le fait que malgré tout, de ce pays qui traverse des choses si dramatiques, finisse par émerger une vraie beauté.
C'est comme ça que les parents de Camille Lepage et son frère ont vu le film.
Oui, oui, oui. Je me souviens que Adrien, le frère de Camille, après la toute première projection, c'est-à-dire le moment où je leur ai montré le film à E3, on était seulement nous quatre dans la salle. On a regardé le film ensemble. Après, on a longuement, je sais pas, pendant 3 heures. Ensuite, on a parlé ensemble. Et Adrien, donc le frère de Camille, disait qu'il trouvait cette fin très belle. Qu'il trouvait qu'il y avait quelque chose de mystique dans la fin, une forme d'élévation.
Merci beaucoup, Boris Lojkine.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre film, Camille. Donc, c'est en salle depuis mercredi. Allez le voir. C'est un film magnifique. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin.
Et Elisabeth Le Quéré. À la réalisation, Fanny Renard.
Rendez-vous la semaine prochaine pour une émission consacrée à Stephen King, le roi de l'horreur, multi-adapté au cinéma. Une émission spéciale présentée par Sophie Torlotin. Rendez-vous samedi prochain. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
Tous les cinémas du monde. Musique.